France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. J'en ai trop parlé, j'y ai trop travaillé, disait Joseph Losey à propos de son projet d'adaptation de La Recherche du Temps Perdu. Luchino Visconti aurait peut-être tenu le même propos. Au cours de l'été 2009, Florence Colombani avait exploré les différentes approches cinématographiques de l'œuvre de Marcel Proust. Voici le Proust de Joseph Losey.
Proust, ce qui est sa force, c'est d'aller chercher en lui si loin que tout d'un coup on dit « oui, je reconnais ».
Nous avons ces images, nous avons l'hôtel de Balbec avec l'hôtel de Mort-à-Venise, avec le grand hôtel des Bains, on le voit.
C'était là où je me suis dit, on peut quand même filmer ça, on peut quand même filmer un homme amoureux qui est la nuit à la recherche de cette femme à travers Paris et qui court d'un endroit à l'autre, qui est pris dans la circulation. Et ben ça, c'était vraiment la séquence cinéma pure.
Et puis on avait le sentiment de se retrouver là, dans la réalité d'un tournage, comme trois joueurs de poker. C'est vrai qu'il y avait un côté défi, Paris, une folie.
À un moment donné, il me semble que le narrateur s'envole, non? C'est une jolie idée. Il faut s'envoler un peu.
Proust à l'écran, le projet Proust de Joseph Losey. Quand Luchino Visconti renonce à son projet d'adaptation d'À la recherche du temps perdu, la productrice Nicole Stéphane refuse de s'avouer vaincue. Elle a engagé des frais considérables dans cette histoire et elle en a fait surtout le rêve de sa vie. Elle va aussitôt trouver Joseph Losey, le grand cinéaste américain. Communiste et donc victime de la chasse aux sorcières du sénateur McCarthy, Losey a dû quitter les États-Unis et il s'est imposé en quelques films tournés en Angleterre et en Italie comme un véritable auteur à l'européenne. Losey vit alors à Paris avec son épouse Patricia et il écrit essentiellement avec le dramaturge Harold Pinter, de 20 ans son cadet, un scénariste inspiré et un futur prix Nobel de littérature qui va bientôt se passionner pour Marcel Proust.
Just after the book, which is 1971, wasn't it?
Juste après Le Messager, qui date de 1971, je crois. Donc en 72, pour être précis,
Joseph Losey.
Nicole Stéphane est venue me voir et m'a proposé une adaptation de La Recherche de Proust. À l'époque, je ne connaissais pas toute l'histoire du projet. J'ai répondu que cela me passionnerait de le faire, mais que je n'accepterais qu'à condition que Pinter l'écrive. Car à mon sens, aucun autre écrivain au monde n'était capable d'écrire un scénario d'après Proust.
Onze. Intérieur. Salon. Hôtel du Prince de Guermantes, 1921. Et porte du salon s'ouvre. La caméra entre avec Marcel, qui hésite. Centaines de visages, dont certains se tournent vers lui, grotesques de vieillesse et de maquillage. Tumulte de voix. 12. La mer vue de la fenêtre, aucun son. 13. Cuillère cognant l'assiette. 14. On suit Marcel avançant dans le salon. Voix, visage, les perruques et les maquillages de ces vieillards qui ont de la peine à se tenir debout, à s'asseoir, à faire des gestes, à rire, donnent l'impression d'un bal costumé grotesque. 15. Dans la bibliothèque, Marcel, un verre posé à côté de lui, s'essuie les lèvres avec une serviette raide et crissante.
Patricia Lozet, est-ce que vous vous souvenez du moment où Nicole Stéphane a proposé à Joseph Lozet d'adapter À la recherche du temps perdu au cinéma ?
Oui, je pense que c'était pendant le tournage de l'assassinat de Trotsky en 71. On était à Rome et elle est venue nous voir et elle l'a proposé.
Quelle était la réaction de Joseph Lozet à cette proposition ?
Mais il trouvait ça magnifique. Il avait un petit peu peur à cause de Visconti, qui on lui a montré tous les papiers signés par Visconti en disant qu'il ne le faisait pas, quoi. Et après ça, on a commencé.
Visconti had wanted to do Sodom and Gomorrah, and she had had a contract with.
J'ai découvert que Visconti avait voulu adapter La Recherche. Il avait eu un contrat pour le faire. Et aussi René Clément avait travaillé sur Du côté de chez Swann.
Joseph Lozet.
Beaucoup de scénaristes avaient écrit pour Clément et pour Visconti, qui avaient bien avancé la préparation. Et à un moment, Delon devait jouer Proust dans Sodome et Gomorre, etc., etc. Mais plus tard encore, Visconti avait proposé à Dirk Bogarde de jouer Swann, je crois. C'est une longue histoire. Alors j'ai dit, je ne veux pas faire Du côté de chez Swann. Je ne veux pas faire Sodome et Gomorre. Si je le fais, je veux faire l'œuvre dans son intégralité et seulement avec Pinter.
J'avais travaillé avec Joseph Lozet sur Eva.
Florence Malraux.
Sur Les routes du Sud aussi. On était restés très proches, très amis, et il m'avait demandé de l'aider pour réaliser son film, sur La recherche du temps perdu. Donc, je lui ai donné une documentation un petit peu variée, avec l'album de la Pléiade, le Proust de Deleuze, des choses comme ça. J'étais, moi, très sceptique sur la possibilité d'adapter un tel chef-d'œuvre au cinéma. Mais à la fois Pinter et Lozet étaient convaincus, enthousiastes, passionnés, et je me disais que c'était leur affaire à eux, quand même.
Comment est-ce que vous pourriez décrire la relation que Pinter et Lozet avaient construite au fil du temps et des films ?
Oh, je ne peux pas en dire plus que ce qu'on sait, c'est-à-dire qu'ils ont fait quelques chefs-d'œuvre.
Jean Pavant.
Ils ont fait The Servant, The Go-Between et Accident. Cela dit, il y a des films que Lozet a fait sans Pinter, et on pourrait imaginer que le scénario de Pinter, qui est la cérémonie secrète, par exemple. C'est, je pense, une des personnalités qui se sont équilibrées. Je pense que chacun s'est adapté à l'autre.
Je crois que ça fonctionnait merveilleusement bien. Ça fonctionnait merveilleusement bien parce que d'abord, c'était deux regards étrangers sur l'Angleterre. C'est-à-dire que Pinter était un juif d'origine d'Europe centrale, d'un milieu très modeste. Et donc, comme toujours, les étrangers proches, puisqu'il était né en Angleterre, les étrangers proches ont une lucidité qui manque à ceux qui sont imprégnés complètement d'une culture.
Michel Simon.
Et Lozet, lui, était au contraire un homme qui comprenait très bien la structure de classe, parce qu'il était d'une autre classe que Pinter, il était d'une classe, disons, plus aristocratique, mais en même temps, il était un étranger, il était un Américain. Et donc, la combinaison de ce juif d'Europe orientale et de cet Américain du Middle West faisait qu'ils avaient tous les deux une lucidité justement sur la société de classe qu'était l'Angleterre, que n'avaient pas la plupart des Anglais qui avaient fait leurs études à Oxford, à Cambridge, et qui n'avaient pas souffert véritablement de cette différence de classe. Ça, c'est une première chose. Ensuite, je pense qu'ils étaient complémentaires. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, la litote le non-dit, qui est le propre de l'art de Pinter, était une sorte de contrepoids au goût du baroque, au goût de l'excès qui était chez Lozay, qui avait presque même des formes mélodramatiques qu'il pouvait adopter, au bon sens du mot, c'est pas du tout péjoratif. Donc finalement, un équilibre assez grand s'établissait entre les deux. Et d'autre part, ce qui est assez frappant quand on voit le théâtre de Pinter et quand on voit les films que Pinter a écrits pour Lozay, qui sont d'ailleurs tous des adaptations, ce sont pas des scénarios originaux, mais on voit qu'il y a un contenu social beaucoup plus fort dans les films écrits par Pinter que dans les pièces écrites par Pinter. D'autre part, les deux hommes s'entendaient très bien, même si leur premier contact a été très violent, qu'ils se sont disputés assez fortement. Très vite, ils se sont reparlés, et ensuite, c'était un rapport sans nuage. Pinter apportait des scénarios qui étaient absolument merveilleux, où il n'y avait pratiquement rien à changer. C'était pas du tout des scénarios non plus indicatifs de mise en scène, comme certains scénaristes. Il n'y avait pas d'indication de où placer la caméra. C'est Lozay qui s'occupait de tout cela. Mais Pinter a été toujours au diapason, et mutuellement, ils étaient au diapason l'un de l'autre.
Disons que la philosophie n'est qu'une méthode d'investigation. Elle ne cherche pas à fournir des réponses précises à des questions précises.
Mais son univers n'est absolument pas celui de Marcel Proust. D'abord, Pinter est essentiellement un homme de théâtre, c'est-à-dire que chez lui, tout est fait pour être vu par des personnages en chair et en os, avec leurs paroles énigmatiques et leur silence.
Jean-Yves Tadié.
Et leurs secrets. Et en plus, Pinter est l'homme de la brièveté, de la concision, de l'allusion. De l'allusion d'ailleurs mystérieuse, du dénouement ambigu. Alors que Proust n'est pas du tout cela. On peut dire que même s'il y a chez lui des secrets, des mystères, et même un romancier du mystère de l'existence, il va aussi loin que possible dans le discours, c'est-à-dire dans l'explication discursive des réalités psychologiques.
Et cette rencontre de quelqu'un qui ne venait absolument pas du monde proustien. Pinter venait d'un milieu modeste, d'une famille juive anglaise populaire, son père était tailleur. C'est un homme de la balle, Pinter, c'était un acteur.
Jean Pavant.
Et il a commencé par écrire des sketchs de radio. Et j'ai l'impression que ça s'est fait un peu sur le tas, la très grande maîtrise de Pinter. C'est d'ailleurs le cas aussi pour le scénario Proust, ça s'est fait sur le tas, c'est une chose qui lui a été proposée, il s'est mis au travail. Ses phares littéraires étaient, ce qui n'est pas étonnant, Joyce, Beckett et Shakespeare. Et Proust, pourquoi pas, s'est-il dit.
Un jour, Pinter a téléphoné, il disait, je n'arrive pas, je ne peux pas commencer. Et alors, le papier blanc, c'est épouvantable.
Patricia Lozay.
Et Joe a dit, il n'y a qu'une seule chose à faire, il faut écrire. Je ne sais pas, il a démarré.
Ça l'a débloqué.
Peut-être pas immédiatement, mais plus ou moins, peut-être qu'il a fait un petit tour à pied autour de son quartier, quelque chose comme ça. Il me semble que Joe lui a suggéré ça, et qu'il revienne et qu'il commence.
Venise, fenêtre d'un palais, aucun son. 17. Dans le salon, un groupe de très vieilles femmes en train de parler. 18. Conduite d'eau dans la bibliothèque, bruit strident de l'eau parcourant les tuyaux. 19. Campagne silencieuse, vue du wagon. 20. Extérieur, l'hôtel du prince de Guermantes, 1921. Une voiture fait une embardée pour éviter Marcel. Il fait un pas en arrière, trébuche sur les pavés, le chauffeur crie.
Et il a une rencontre très forte avec Proust.
Il y a une rencontre extrêmement forte, sur le temps, pas tellement sur les réflexions sur la société, encore que les sarcasmes, l'ironie, l'humour, la cocasserie de Proust rejoint quand même une vision sarcastique et cocasse que Pinter, le dernier Pinter, a eu, disons, des élites ou des privilégiés de la société. Et puis, la réflexion sur le temps qu'il a assimilé en, parce que la première pièce qu'il a écrite après l'année de travail sur le scénario de Proust, c'est Betrayal, c'est Trahison. Et Trahison, qui est une histoire rencontrée complètement à l'envers. C'est une des plus extraordinaires pièces de Pinter. C'est une histoire banale de époux, épouse et amant. Mais tout est raconté à l'envers. C'est-à-dire, ça commence par la rupture de l'épouse avec son amant, après quoi la découverte par le mari que sa femme a une liaison, et jusqu'à la rencontre à l'origine. Il a écrit une pièce entièrement à rebours du temps, et sans aucun doute, d'ailleurs je lui ai posé la question, puisque j'ai eu l'occasion, le privilège de le rencontrer, Pinter, et tout simplement, si son travail sur Proust avait influencé son inspiration de Betrayal, of course, bien sûr.
The past is a foreign country. They do things differently there.
Le passé est un pays étranger. Les choses s'y font autrement.
Au fond, il y a deux écoles. Il y a les gens qui pensent que la grandeur de Proust est comme celle de Balzac, et comme celle de Saint-Simon, et c'est celle d'un grand témoin de la société, et c'est vrai, ça fait partie de la grandeur de Proust. Et d'autres, comme Samuel Beckett, qui avait écrit très tôt un petit essai absolument remarquable sur Proust, voyait que la grandeur de Proust était dans la vision métaphysique. Dans la structure de roman, dans le temps retrouvé, dans les mécanismes de mémoire involontaire décrits, qui sont en fait les mécanismes de l'oubli. Et c'est d'ailleurs sur le conseil de Beckett que Pinter a adopté cette méthode de prendre à bras-le-corps toute la recherche et de structurer avec Lozé. Et il faut dire aussi avec Barbara Bray, qui a été une collaboratrice importante, parce que c'était elle qui connaissait bien Proust, donc de structurer le scénario sur la structure totale de la recherche. C'est-à-dire que ce serait absolument une erreur de centrer l'adaptation uniquement sur deux ou trois tomes, sur Sodome et Gomorre et La Prisonnière. Cela n'est intéressant que si on prend à bras le corps toute la recherche, étant donné que le côté extraordinaire de cette œuvre est la réflexion sur le temps et la structure.
Et donc nous avons commencé.
Joseph Lozé.
Pinter, moi et Barbara Bray, qui était notre référence quand nous voulions revenir à Proust. Nous sommes mis au travail sur les scénarios. Cela a duré un an. Et le résultat est le meilleur scénario que j'ai eu et sans doute le meilleur scénario que j'ai jamais lu. Mon avis est d'ailleurs largement partagé. Ça ne s'est pas fait. Mais l'important est que ce scénario est le résultat de The Servant, d'Accident et du Messager. Car après tout, sur le sujet du temps, l'auteur par excellence, c'est Proust. Et la dernière phrase de notre scénario Proust est « Il était temps de commencer ». La fin devient le début.
64. Intérieur. Wagon. Petit train venant de la Raspelière, 1901, nuit. Marcel, 21 ans, et Albertine, 21 ans. Albertine est en train de parler. Albertine. Je connais la fille de Vinteuil presque aussi bien que je connais son amie. Je les appelle toujours mes deux grandes sœurs. 65. Extérieur. La maison de Swann. Tansonville, 1893. Les chemins longeant le parc de Swann. Une haie d'aubépines blanches et roses. Marcel, 13 ans, entre dans le plan. Il regarde les aubépines. Le père hors champ. Aujourd'hui, nous allons marcher du côté de chez Swann. 66. Plus loin, sur le chemin, le père et la mère marchent en tête. Marcel traîne derrière. Soudain, il s'arrête. 67. Trou dans la haie. À travers un trou dans la haie, il voit un étang. Une canne à pêche est placée sur la rive, son bouchon dansant sur l'eau. Près de la canne se trouve un couffin d'osier. Dans une allée de gravier, un tuyau d'arrosage enroulé répand des gerbes d'eau sur les fleurs. Jasmin, pensée, verveine, fleurs grimpantes. Marcel sursaute soudain. Une fillette aux yeux noirs, une bêche en main, est en train de le regarder. C'est Gilberte. Elle a 13 ans.
Et c'est certain que les films qu'il avait réalisés avec Pinter, en particulier les deux derniers, enfin, puisque The Servant est un petit peu différent de ce point de vue-là, il y a des points communs avec les deux autres, mais pas de ce point de vue-là, c'est le travail sur le temps.
Michel Simon.
Dans Accident, il y a par exemple, au milieu du film, une scène entre Dirk Bogarde et Delphine Seyrig qui donne l'impression d'être décalée par rapport au reste du film. C'est une ancienne conquête qu'il va revisiter pendant qu'il se rend à Londres, etc. Donc, là, on peut dire que Accident, c'est un film construit sur le temps.
Mon idée était précisément celle-ci, l'extension du principe d'accident. Le présent et le passé suivent des lignes parallèles et le temps est un continuum. Il est impossible de le fractionner sur le plan culturel, sur le plan du temps ou encore en termes philosophiques et autres. Je ne suis pas philosophe, mais bien des gens diraient que cette idée est très bergsonienne. Bien sûr, Proust a été très influencé par Bergson. Bergson est très démodé, mais Proust ne l'est pas, et il ne le sera jamais. Je ne pense pas que notre film le sera non plus, si nous parvenons à le faire un jour.
Francesca?
J'étais dans mon bain quand tu as appelé. Tu n'as pas changé. Pas du tout.
Ça me fait plaisir de te voir.
J'étais dans mon bain quand tu as appelé.
Ça doit faire 10 ans.
Le scénario de Pinter commence par la dernière soirée chez le matinée chez le prince de Guermantes, où tout le monde a vieilli. Il commence par la fin et où il y a les révélations du temps avec le bruit des pavés, le contact rêche d'une serviette et tout se précipite.
Jean Pavant.
Enfin, tout le passé se précipite. Donc, ce n'est pas par la Madeleine que commence tout le travail de mémoire, ou plutôt de ce résurgence de ce qui était intact dans l'oubli, parce qu'en réalité, c'est les souvenirs sortent intacts par la mémoire involontaire, parce qu'ils n'ont pas été déformés par la mémoire consciente. Ils ont été embaumés, c'est une expression admirable de Baudelaire, d'ailleurs, mystérieusement embaumés dans ce que nous appelons l'oubli. Il y a un accident qui fait qu'un événement qu'on a gardé en soi est resté complètement intact parce qu'on l'oubliait. Et l'accident fait surgir le souvenir intact.
10 ans. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et pourtant, c'est vrai.
Et pourtant, c'est vrai.
Ouais.
Pour
Proust, le passé peut être retrouvé à volonté, grâce à la mémoire et grâce à l'art, et en plus, l'œuvre d'art. Au fond, la question qu'on pose de retrouver, c'est qu'est-ce qu'on peut dresser face à la mort? Et l'art, face à cette mort, subsiste. Donc, on peut retrouver le passé, l'individu peut le retrouver par la mémoire, et l'artiste par son œuvre.
246. Intérieur. Casino. Balbec. Salle de bal. Il n'y a aucun homme dans la salle. Quelques jeunes filles sont attablées devant des boissons. Une jeune fille joue une valse au piano. Une demi-douzaine de jeunes filles dansent ensemble. Albertine et André dansent ensemble. Marcel et Cottard les observent de la porte. Marcel. Elles dansent bien, n'est-ce pas, ces jeunes filles, entre elles.
Alors, Pinter, il avait découvert Proust grâce à ce projet, finalement. Il ne l'avait jamais lu avant. Est-ce que c'était aussi le cas de Lezay, ou est-ce qu'il connaissait...
Il l'avait lu quand il était très jeune. Jeune fille en fleurs, je crois. Mais c'est tout. Et comme vous le savez, si on ne le lit pas entièrement, on n'a pas vraiment une idée de ce que ça représente, n'est-ce pas?
À votre avis, Patricia Lezay, qu'est-ce qui pouvait plaire à Joseph Lezay chez Proust?
Il trouvait que même si Proust était français, archi-français, et c'est un monument dans la culture française, mais il trouvait que qu'il y avait beaucoup de correspondance partout dans le monde, dans sa famille, partout dans le monde qu'il fréquentait, que c'était universel.
Lezay venait d'une famille très cultivée, aristocratique si on peut employer ce mot pour les États-Unis, mais le grand-père de Lezay avait fondé la ville où il est né, La Crosse.
Michel Simon.
Où d'ailleurs Nicolas Ray est né également 2 ans après, et tout près de l'endroit où Orson Welles est né 5 ans après. Donc tous ces gens-là, c'était du même coin. Et c'était donc d'une famille très aisée, avec des gens qui venaient rendre visite. Rachmaninov venait jouer du piano. Il avait une nounou. On parlait français. On lisait Racine. Voilà. Donc ça fait un peu ridicule quand le président de la République de l'époque, Giscard d'Estaing, a reçu Lezay et lui a demandé comment un Américain comme lui peut s'intéresser et comprendre la grande culture française du début du siècle. Pas du tout, je pense même qu'on lisait des pages de Proust. Donc c'est un homme très cultivé, qui avait fait beaucoup de lectures, etc. Et donc Proust, incontestablement, était un auteur qui lui convenait particulièrement.
Je pense que cela a des rapports avec l'histoire de ma famille.
Joseph Lezay.
L'étrange conduite d'un grand-père parcourant à pied les 1500 kilomètres de Amherst jusqu'au Wisconsin. Mon éducation dans cette fausse atmosphère européenne du Middle West. Mon enfance quasiment proustienne. J'ai rencontré votre président Giscard d'Estaing et il m'a dit « Quel droit avez-vous d'adapter Proust ? Vous venez du Middle West, vous n'avez même pas appris le français convenablement et je ne pense pas que c'était entièrement sur le ton de la plaisanterie. » Cela dit, j'ai lu énormément de littérature française dans le texte et du côté de chez Swann, intégralement en français à 15 ans. La Crosse, Wisconsin, n'était pas vraiment très différent d'ici. J'ai dit à Giscard que j'avais tout le contexte pour comprendre Proust. Et d'une autre façon, politiquement, j'ai été une personne persécutée, un juif pratiquement parlant. Et vous avez de l'asthme. De l'asthme, et j'ai aussi une grand-mère.
a dit que sa mère était veuve. Je crois. En réalité, je ne sais pas grand-chose de lui.
Il a l'air d'un bon petit garçon.
J'ai l'impression qu'il doit vivre avec sa mère dans une maison plutôt petite.
Ah, oui, il a l'air vraiment très gentil.
Voyons, est-ce que tout le monde est là, hein?
Si on voit par exemple le rôdeur, The Prowler, par exemple ce film noir qu'il a fait aux États-Unis, qui est un de ses plus grands films américains, on peut pas dire que c'est proustien, ça serait absurde. Par contre, c'est vrai qu'il y a incontestablement des préoccupations qui se raccordent avec celles de Proust. D'abord, Lozay conjugue, disons, la psychologie ou même la psychanalyse, c'est-à-dire il y a une capacité d'aller dans les gouffres du psychisme, de voir comment la conscience fonctionne, et en même temps, une sorte de vue panoramique de la société. Moi, je pense que ce qui fait la grandeur de Proust, c'est cette conjugaison, disons, sans être ni marxiste ni freudien, de conjuguer justement l'individuel et le collectif. Donc je pense que Lozay était tout à fait dans ce registre-là. Il savait mener de front les deux domaines. Par exemple, The Go-Between, il y a ce vieil homme qui revient sur les lieux de son enfance et qui se remémore, on le comprend petit à petit, il y a des apparitions fugaces à travers le film, où on voit cet enfant qui a été transformé, qui a été détruit psychologiquement en transportant des messages, puisque c'était le messaggio d'amore, c'était le titre italien de The Go-Between, il apportait des messages de deux amants et la découverte de cet amour a été pour lui un traumatisme. Bon, et puis aussi la société qui est montrée, la société de The Go-Between, qui est une société aristocratique du début du XXe siècle, et puis Accident, qui est une société également huppée, celle des professeurs de Cambridge ou d'Oxford, enfin bon, qui est une société très classe, enfin très très cultivée, très raffinée. Bon, et The Servant, troisième film qui ne joue pas avec le temps comme les deux suivants, mais où on trouve également ce rapport avec une aristocratie. Et puis peut-être on peut penser à Jupien, on peut penser à voilà, il y a aussi le même chose que chez Proust, que chez Proust est très très conscient aussi de ces différentes de classes, d'accent, etc. De modulation de la langue, etc.
Quel toupet ! Il est sur la propriété. Qu'est-ce que nous faisons ?
Dites-lui de dégarpir.
Quel toupet !
Qui ça peut-il être ? Je ne sais pas. En tout cas, il nage bien. Et il est vraiment très bien bâti. Tu ne trouves pas ? Viens, Kate, nous allons nous changer.
On lui dit de dégarpir. Mais c'est Ted Burgess?
Qui est-ce?
C'est le fermier qui est à Black Farm. Nous ne pouvons pas être impolis. Il cultive les terres de l'autre côté.
Oui, il vaut peut-être mieux être aimable.
Je vais simplement lui dire bonjour. Nous ne sommes pas du même monde, cela va sans dire. Mais cela ne nous empêche pas d'être aimables. Vous ne croyez pas?
Je pense que oui.
Ne pensez pas que quelqu'un allait venir. Je viens de commencer la moisson. Et il fait si chaud.
Oh, mais ne vous inquiétez pas pour ça. Nous aussi, nous avons très chaud, là-bas au château. Vraiment chaud.
Je ne reste pas longtemps. Il est temps de piquer une tête.
C'est parfait, c'est parfait. Je crois que je l'ai mis à son aise. Je crois, non ?
Évidemment, Pinter, quand il écrivait, il était tout seul. Hein? C'était pas qu'il se mettait dans une pièce. Mais il y avait énormément de discussions, mais énormément.
Patricia Lozay.
Et c'était toujours intéressant d'être dans les parages, parce que c'était souvent au cours d'un déjeuner, d'un dîner, d'une soirée, qu'on passait ensemble, nous trois. Et donc, oui, énormément de discussions. Je ne peux pas dire plus, vraiment. Ce que je peux dire, c'est que Pinter, pendant un an, il le dit dans un livre, il n'a fait que lire Proust et qu'il trouvait que c'était la meilleure année de sa vie. Et donc, quand il a terminé, je me rappelle qu'il a envoyé une longue lettre à Dieu dans laquelle il proposait une façon d'approcher cette énorme œuvre. C'était pas évident. Mais en général, c'était des conversations à vive voix autour de, du boisson et du manger.
L'apport de l'osé, par exemple, Peter le dit, dans le scénario Proust, c'est de ponctuer visuellement le scénario par des images de la vue de Delft de Vermeer.
Jean Pavant.
Et c'est capital parce que le passage de la mort de Bergotte dans la recherche, dans la prisonnière, est le moment le plus métaphysique. C'est en fait le seul moment où il est question de la possibilité d'un au-delà, enfin, d'une vie éternelle.
C'est une des plus belles scènes de, dans la charge de la perdue. L'écrivain type qui illustre l'image de l'artiste littéraire dans la charge de la perdue, l'équivalent d'Elstir pour la peinture et de Vinteuil pour la musique, c'est Bergotte.
Jean-Yves Tadier.
Bergotte est âgé, malade, il commence à perdre d'ailleurs son génie littéraire et il se trouve qu'il y a une exposition Vermeer dans le roman, et que Bergotte décide d'aller voir. Et il va être saisi là d'une crise qui va l'emporter dans l'exposition même. Et devant le tableau qu'il pense, et que Proust pense aussi d'ailleurs être le plus beau tableau du monde, la vue de Delft de Vermeer. Et donc, il isole dans ce tableau un détail qui lui paraît particulièrement extraordinaire, tout à fait à droite du tableau, en se répétant « petit pan de mur jaune, petit pan de mur jaune ». Et la question que pose ce détail, c'est de savoir si, se demande Bergotte, il valait le coup de sacrifier sa vie pour cela. Face à la mort, au moment où il n'a plus aucune chance matérielle, il se dit « ai-je raison de sacrifier ma vie pour la littérature, comme Vermeer a sacrifié la sienne pour la peinture, et c'est cela que symbolise le petit pan de mur jaune. »
Et c'est un peu une clé de voûte, pas tout à fait la clé de voûte, je dirais, c'est comme les, si on voit la recherche comme une cathédrale, c'est un peu les vitraux, la mort de Bergotte. Donc si on pense que la recherche est entièrement baignée par la lumière de la mort, et qu'au fond, c'est un... La matinée chez le prince de Guermantes, où défilent tous les vieillards à la fin de la recherche, c'est un peu le jugement dernier, tout le monde est égal devant la mort. Et donc cette idée de l'osé, de ponctuer tout son film par un écran jaune, et puis le petit qui se révèle après être le petit pan de mur jaune de Vermeer, de la vue de Delft, est une idée admirable et entièrement fidèle à la structure de Proust. Et c'est absolument l'archétype d'un bon équivalent cinématographique à la structure littéraire.
Alors, ça va très bien avec Pinter, puisque c'est justement une phrase d'aphasique, petit pan de mur jaune, petit pan de mur jaune, il n'y a pas de verbe, il n'y a pas de... Et c'est la brièveté pinterienne, son secret, son mystère, que justement Bergotte mourant emporte dans la tombe. C'est un texte qui est très émouvant chez Proust, bien sûr. Et je me demande s'il n'a pas fait subir à la recherche une sorte de contraction pinterienne dans son scénario.
...448, bref plan d'écran jaune. 449, la Vivonne à Combray. 450, les toits de Combray. 451, le jardin de Combray, le soir. 452, la clochette à la grille du jardin. 453, Swann, ouvrant la grille du jardin et s'en allant. 454, Marcel, enfant, regardant par la fenêtre de sa chambre, la sonnette s'arrête. 455, la vue de Delft, de Vermeer. La caméra se concentre rapidement sur le petit pan de mur jaune, écran jaune. On entend en commentaire, voix de Marcel, il était temps de commencer.
À un moment, à l'été 1972, Pinter raconte dans la préface du scénario que vous avez fait des voyages en France pour vous rendre sur les lieux de la recherche.
Oui, malheureusement, je ne pouvais pas venir. J'avais mes enfants. Et c'était en compagnie de Florence Malheureux qui a pu les faire entrer dans des grandes maisons.
Enfin, ce dont je me souviens surtout, c'est qu'on a mis 2 jours pour arriver à Cabourg, et je crois que c'était à 200 kilomètres.
Florence Malheureux.
Parce que Lauzet s'arrêtait pour boire de la vodka, et Pinter pour boire de la bière. Et il n'aimait jamais les mêmes cafés. Donc on s'est arrêté à peu près toutes les 5 minutes, et ça changeait quand même un tout petit peu leur regard. Et c'était un voyage épique, mais en même temps, le mélange de Pinter et Lauzet, c'était quand même intéressant. Et ce qui était drôle, évidemment, c'était la déception, ou l'étonnement en tout cas, et de Lauzet et de Pinter devant la toute petite maison d'Hillier. Quand on lit Proust et qu'on sait que c'est le regard d'un enfant, on imagine un palais et on se trouve avec une maison miniature. Donc ils étaient ce grand américain bigger than a life était complètement stupéfait devant une maison de poupée.
Lauzet est au sommet de sa carrière puisque il vient de remporter la Palme d'Or pour Le Messager.
Michel Simon.
Go Between, qui était au Festival de Cannes, donc c'était sa 3e collaboration avec Pinter et à chaque fois évidemment une reconnaissance presque unanime. Et donc c'est un peu normal, si vous voulez, d'une certaine façon, qu'un projet aussi ambitieux que Proust lui soit proposé à ce moment-là, probablement plus que 10 ans plus tard, où il a connu quelques échecs et moins de reconnaissance.
Quelle était la relation entre Visconti et Lauzet? Est-ce que c'était vraiment une relation de rivalité, d'estime et de...
Je ne sais pas du tout ce que Visconti pensait de Lauzet. Je sais que Joe avait énormément d'admiration pour Visconti. Non, mais il n'y avait pas d'amitié, pas comme avec Fellini, par exemple, qui était...
Et avec Visconti, il partageait souvent des acteurs.
C'est vrai.
Notamment Dirk Bogarde.
Oui, oui. D'abord, Bogarde a travaillé avec Lauzet, ensuite avec Visconti.
C'est vrai qu'il y a ce rapport avec Bogarde, qui s'est concrétisé d'ailleurs, ce rapport, disons, contradictoire avec Bogarde, qui s'est concrétisé l'année précédente au Festival de Cannes, puisque Bogarde était dans Mort à Venise, il était le héros de Mort à Venise, et que Lauzet présentait The Go-Between, le messager. Et donc, rivalité, déception de Bogarde que le film dans lequel il jouait n'ait pas de prix, puisqu'il a eu un prix de consolation qu'on a essayé de faire passer auprès de Visconti pour le plus grand prix du festival, puisque c'était le prix du 25e anniversaire. Et en fait, plus ou moins, on lui avait laissé miroiter la Palme d'Or, une 2e Palme d'Or, et le Go-Between est arrivé dans les 3 derniers jours et a emporté la Palme, disons, à l'arraché, si on peut dire. Et donc, Visconti était très déconfit. Il y a des lettres de Bogarde à Lauzet, ou évidemment un peu moqueuses, comme c'était toujours le style de Bogarde.
Dear Joe, souviens-toi de Mort à Venise. Je sais que tu voulais le faire depuis longtemps. Tu me l'as assez dit et répété. Mais tu n'as jamais demandé à le faire avec moi. Tu ne m'as jamais donné la chance ni même vaguement supposé que j'en étais capable. En mai de l'année dernière, Visconti l'a fait, lui. J'en étais sidéré, ébloui jusqu'à la moelle. Il ne me donnait aucun prétexte, aucune explication, si ce n'est en disant, de façon assez grincheuse, que je suis comme un faisan mort pendu par le cou et prêt à tomber, l'idée étant, j'espère, que je suis mûr, et aussi que je ressemble vraiment à Malheur, et que je suis l'un des meilleurs acteurs de cinéma du moment. Alors que toi, tu ne m'as jamais rien dit, même pas que je suis un peu plus qu'un acteur passable. Et on comprend dans tes interviews et tes livres que c'est moi qui ai de la chance de t'avoir. au lieu de contraire, mon chou. Tu es vilain. Tu sais très bien que je t'aime profondément et que je t'aimerai toujours, quoi qu'il arrive. Mais tu es un solitaire. On ne peut rien faire pour toi. Tu dévores l'amour qu'on te donne comme si c'était des sucreries et puis tu le vomis directement, comme un chien. J'espère commencer un film avec Damiani en octobre, un genre de Zorba, mais beaucoup mieux et sans l'affreux Anthony Quinn. Ça devrait m'occuper un moment, au moins jusqu'à la recherche du temps perdu que Visconti doit faire à la fin du printemps 1971. Best regards, Dirk.
Il adorait narguer. C'était... Et puis quand, à un certain moment, des années après, qu'on l'a essayé par tous les moyens de mettre en route le film, il a écrit à énormément d'acteurs pour leur demander si, en principe, et s'ils sont libres, ils seraient prêts à jouer un rôle dans À la recherche. Et tout le monde était ravi, il y a eu des réponses merveilleuses, des plus grands acteurs français, etc., etc. Et puis, Dirk disait, malheureusement, je ne pourrais pas accepter, il n'y a aucun rôle que je pourrais jouer. Voilà, c'était le seul qui a refusé, quoi.
Est-ce que vous vous souvenez de quels acteurs avaient accepté?
Oh, Delon, Romy Schneider, et puis les grands acteurs français. Jeanne Moreau, bien sûr. Mais tous étaient ravis. Simplement de dire oui en principe. Et sans spécifier le rôle qu'ils auraient joué. Hein. C'est assez... étonnant, mais les réponses en effet étaient très émouvantes.
Non, je pense aussi que, de même que Proust se moque du snobisme, mais en même temps il participe, puisque après tout, tous les jours, il fréquentait une société hyper snob, et donc, s'il en avait eu un dégoût profond, il n'aurait pas continué à fréquenter ses salons, etc. Donc il fallait qu'il y ait d'une certaine façon un plaisir à fréquenter ce monde pour pouvoir ensuite en faire la satire. Et je pense que Le Zay, quand il est arrivé en France, c'est ce que lui reprochaient les jeunes critiques du MacMahon qu'il avait découvert et qui étaient en grande rupture avec toute une société française de salons, etc., qui étaient des jeunes gens ardents et anticonformistes. Ils souffraient un peu de voir Le Zay s'éloigner d'eux pour fréquenter Marguerite Duras, pour fréquenter des cercles intellectuels ou pseudo-intellectuels, et parfois faire certains projets uniquement par affinité avec, ou plutôt par volonté de s'intégrer à une société intellectuelle. Et je pense qu'il avait une volonté de compensation, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte de revanche à prendre sur la vie.
Je suis content de vous connaître. C'est vrai ce que je dis. Vous êtes plutôt sympa pour un prof de philo. Je n'ai pas beaucoup d'amis.
C'est parce que vous êtes un aristocrate.
Hmm?
Tous les aristocrates sont faits pour...
Pourquoi?
Pour être tués.
Naturellement, ils sont immortels.
Elle vous plaît?
224, extérieur, plage, Balbec, jour, 1898. Albertine se détachant sur la mer et le ciel, riant.
Le rapport du narrateur et d'Albertine dans le scénario de Pinter...
Ah, ça c'est remarquable.
Vraiment très fort.
Oui. Ah, ça c'est remarquable. Et toute la partie Albertine, c'est remarquablement restitué. Odette et Swann, un peu moins bien restitué, je trouve. Peut-être parce que, je veux dire une banalité qui est un peu stupide, mais peut-être que Pinter est amoureux d'Albertine. Pinter qui avait vis-à-vis de l'homosexualité une vision à la fois plus que tolérante, c'est-à-dire qu'il était absolument scandalisé bien sûr par les hypocrisies, par les persécutions, n'importe quoi, ça c'est pour ça. Mais enfin bon, c'était très loin de son monde amoureux et affectif. Je pense qu'il est amoureux d'Albertine et des jeunes filles. Et en effet, les séquences qu'il a restituées. Je ne dirais pas qu'elles sont plus justes que dans Proust, ce qui serait quand même extraordinaire. Mais les passages avec Albertine sont peut-être ce qu'il y a de plus réussi dans le scénario Proust.
225, intérieur, chambre de Marcel, soir, 1900. Marcel attire Albertine à lui. Les joues d'Albertine, lisses et roses, s'approche de l'œil de Marcel et montre une texture plus grossière. Leurs lèvres se touchent, noires. Après un long baiser, il chuchote. Pourquoi ne m'avez-vous pas permis de vous embrasser à Balbec ? Albertine chuchotant. Je ne vous connaissais pas bien. 226. Marcel et Albertine s'embrassent. Elle se penche sur lui, le serre contre elle. La caméra se concentre seulement sur leurs mains. Il l'étreint brusquement. Il reste immobile.
Lozay a cristallisé dans Eva pratiquement toute sa conception du rapport des hommes et des femmes, à la fois le rôle de l'argent, le rôle des classes sociales, les rapports même parfois sadomasochistes qu'on retrouve dans plusieurs de ses films. Enfin, sadomasochiste, il faut pas exagérer, on n'est pas chez Fassbinder ou chez Pasolini, mais il y a incontestablement aussi cela, ces rapports de domination. C'est torturé, les rapports entre les hommes et les femmes.
Oui, mais la jalousie proustienne, c'est un délire de possessivité. C'est un délire de possessivité que sans doute éprouvait Visconti. Je ne crois pas que chez Pinter, c'est une petite jalousie, ce sont des petites trahisons, ce n'est pas... C'est vu d'une manière un peu ironique. Non, je parle de, bien sûr, dans le scénario de Pinter, il a traité la jalousie de... tel que l'a traité Proust, mais chez Pinter, il y a jalousie quand il y a trahison, quand il y a mensonge, quand il y a... Bien sûr, il y a le mensonge aussi, obsède l'être possessif. Proust est obsédé par les mensonges. Mais il n'y a pas que ça, même la vérité le fait, la plus banale, le fait souffrir.
...176... Intérieur. L'hôtel de Guermantes. Le vestibule. Jour. La duchesse dans le vestibule, devant un miroir, arrangeant son chapeau, lissant ses manchettes. Ses cheveux sont dorés. Elle sort. Les domestiques s'inclinent. ...177... Extérieur. Portail de la cour, l'hôtel de Guermantes. Le concierge ouvre les portes, s'incline au passage de la duchesse. La caméra suit la duchesse qui marche dans la rue. On comprend à son regard qu'elle croise quelqu'un. Elle incline sèchement la tête et continue de marcher. Caméra panoramique pour montrer Marcel immobile, suivant des yeux la duchesse.
Il y a aujourd'hui une chance très vague que le film se fasse. Mais à l'époque, Harold et moi perdions tous les deux nos vies dans un dévouement à ce projet qui ne se faisait jamais. D'une certaine façon, nous n'y avons pas renoncé et nous n'y renoncerons jamais, mais nous l'avons mis de côté au cas où il se fasse. J'en ai vraiment envie. Eva fut un bouleversement terrible dans ma vie professionnelle et autres, et ça a été aussi le cas du film Proust. Si j'avais pu faire Proust tout de suite après l'écriture du scénario, ma vie, mon travail, ma santé, tout aujourd'hui serait très différent. Vu la situation, je ne peux que le mettre de côté. Et dire que Voss est mon prochain film. Parmi les projets, Proust est le premier. Mais même si j'ai grand hâte de le faire, je ne peux plus me battre pour ce film.
Donc j'ai demander après à Joseph Losey et à Harold Pinter, parce qu'ils ont fait les meilleurs films de Losey sont des adaptations de Pinter, nous le savons.
Nicole Stéphane, 1983.
L'adaptation était finalement toute l'œuvre, toute la recherche de temps perdu, concentrée, mais quand même 5 heures, ce qui était impossible pour un film. Donc c'est un film qui coûtait beaucoup trop cher, et 25 millions de dollars à l'époque. Et c'est impossible de le monter. J'ai même demandé à Joseph Losey, en lui disant, si vous pensez que je ne suis pas capable de monter, montez-le vous-même. Il s'est aperçu que ce n'était pas possible. Mais ma joie, c'est que Harold Pinter a pu publier dans le monde entier le scénario. Donc ça existe. Donc si vous voulez, cette espèce de longue marche n'est jamais vraiment négative.
Le scénario de Pinter est une lecture en soi. C'est un très grand scénario, c'est une très grande analyse de la recherche, c'est une approche extrêmement instructive sur la totalité de la recherche. C'est une œuvre littéraire et il a fait par amour, comme il dit, out of love. The bastard did it. que les gens, que les Proustiens... avait dit, bon sang, il y est arrivé, il a fait. Personne n'aurait pensé qu'on pouvait faire un scénario prenant toute la recherche.
Le fait que le film ne se fasse pas, c'est resté un regret très fort chez lui.
Oui. C'est difficile de se remettre de ça, franchement. Mais c'était une crise économique dans les années...
70. C'était en 73 que le projet s'est arrêté.
Et
en effet,
le prix
la
du
crise.
Pétrole a grimpé. Et c'était une crise. Il n'y avait pas d'argent. Les gens ne voulaient pas risquer quoi que ce soit. Après ces naufrages, il a dit, il faudrait que je fasse des petits films qui ne coûtent pas cher, parce que c'est... Et aussi qui ne me coûtent pas aussi cher dans mon cœur, parce que c'est trop difficile.
Bien sûr, ce que je désire le plus, c'est de faire le Proust. Mais chaque année qui passe augmente le budget de ce film et la difficulté, parce que les décors disparaissent. Je crois que j'en ai déjà trop parlé ces dernières années. J'y ai aussi trop travaillé. Le projet a tous les éléments pour être une grande réussite. C'est un scénario absolument extraordinaire. Harold le considère comme son œuvre la plus ambitieuse et la plus accomplie à ce jour. Pour moi, ce serait une combinaison de mes films précédents. Si je pouvais le faire, je serais convaincu que l'ensemble de mon travail pour le cinéma a eu un sens. Ce serait un véritable accomplissement. Si je ne le fais pas, j'aurai toujours le sentiment de quelque chose d'avorté.
Dear Penelope, Proust a de nouveau replié ses ailes et la poussière s'est déposée sur tout ceci. De toute façon, je ne vois pas aujourd'hui de mettre en scène qui pourrait... Non, je ne vois pas.
Avec Michel Simon, Patricia Lozet, Florence Malraux, Jean Pavant, Jean-Yves Tadier et la voix de Joseph Losey, avec nos remerciements à Michel Simon pour cette archive personnelle. Les extraits du scénario Proust de Harold Pinter étaient lus par Philippe Morier-Genoux. Les lettres de Dirk Bogarde étaient lues par Jeffrey Carey. La voix de Joseph Losey était doublée par Maurice Bénichou. Prise de son, Isabelle Limousin et Pascal Baudin. Mixage, Éric Boisset. Proust à l'écran, le projet Losey, une émission de Florence Colombani réalisée par Céline Terce.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 22 août 2009. Vous pourrez la réécouter en ligne durant 1000 jours ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.